Bonjour, je suis Annie Lebé, journaliste scientifique indépendante. Je vais vous lire le chapitre 6 du livre « J'aide mes enfants à décrocher des écrans » intitulé « Les tablettes tactiles, mini-écrans, maxi-effet ». Les tablettes tactiles ne sont rien d'autre que de gros téléphones portables. Elles émettent deux types d'ondes électromagnétiques. Basse fréquence de l'électricité à 50 Hz, comme tous les appareils électriques, et micro-ondes Wi-Fi pour la connexion Internet sans fil à la même fréquence que les fours à micro-ondes 2450 MHz, millions de Hertz. Les graves effets d'une exposition dès le plus jeune âge à ces tablettes sont au nombre de 4. Cancer, électro-hypersensibilité, destruction de l'acétylcholine, neurotransmetteur de l'apprentissage, de l'attention et de la mémoire, et stérilité future par destruction des ovocytes chez les fillettes et fermeture des canaux séminifères chez les garçons. Voir page 15-29. Si vous avez déjà donné une tablette à vos enfants, je vous recommande de lire attentivement ce qui suit. Et pareillement, si vous avez jusqu'à présent refusé de le faire. En effet, la loi sur la « refondation » entre guillemets de l'école votée en 2013 instaure la distribution de tablettes tactiles à tous les élèves, entre guillemets, à partir du cours préparatoire, au cours duquel les élèves apprennent à 6 ans à lire, écrire et compter. À l'heure où ce livre est publié, ces dépenses dévolues aux communes n'ont pas encore été effectuées, sauf dans le cadre d'expérimentations par quelques municipalités pilotes. Ouvrez les guillemets. Dès lors que l'ordinateur de l'élève est ouvert, l'attention au cours chute de manière très importante. Observe des enseignants cités par un rapport de l'Inspection Générale de l'Éducation Nationale, IGEN, évaluant les résultats du plan « Un collégien, un ordinateur portable » lancé en 2011 par le Conseil Général des Landes pour un budget total de 52 millions d'euros. Note 52. http://2.2/cache.media.education.gouv.fr/file/2013/08/3/r-8/8 collégien au singulier sans accent -8/2/6/148/8 collégien au singulier sans accent -8/2/5/0083.pdf et Le Figaro, lundi 6 mai 2013, page 13, les difficiles premiers pas de l'ordinateur à l'école. Ce ne sont donc pas les nouvelles tablettes dont l'État veut équiper les écoliers qui vont augmenter l'attention au cours. Elles disposent de, ouvrez les guillemets, systèmes d'exploitation performants et de, encore ouvrez les guillemets, magasins d'applications très fournis pour télécharger des jeux vidéo gratuits, ou plus exactement freemium, c'est-à-dire d'entrée gratuite, mais pour lesquels il faut payer pour obtenir des niveaux supérieurs, des nouvelles armes ou débloquer des personnages. Note 53, Le Monde, mardi 7 mai 2013, page 6, sur les smartphones et les tablettes, les jeux font un tabac. Nul doute que les écoliers seront déconcentrés par ces jeux à portée de doigt pendant la classe. Toutes les tablettes tactiles sont équipées en Wi-Fi, leur caractéristique essentielle étant la mobilité. Se contenter de demander des connexions filaires dans les écoles, c'est donc passer clairement à côté du problème que constitue l'introduction des écrans à l'école. Elle ne fera qu'aggraver la chute des résultats scolaires à cause d'un effet bien documenté des ondes sur le cerveau, la diminution de la sécrétion d'acétylcholine, le neurotransmetteur de l'attention, de la mémorisation, de l'apprentissage et du mouvement, en un mot, la destruction du neurotransmetteur de l'intelligence. Note 54, Véret B, Després B, Viard J, 1995, les effets biologiques des radiofréquences. Conférence invitée, Memento numéro 6 du CNET France Télécom. Alors là, je signale que ces études sont en ligne sur le site Santé Publique Édition. Véret et Viard, ce sont deux chercheurs qui ont tourné leur veste après pour dire que les ondes n'avaient pas d'effet. Mais en 1995, ils disaient et ils écrivaient exactement le contraire. Et vous pouvez voir ce document sur le site Santé Publique Edition.fr. Et également donc Testillier G, Tonduli L, Malabio R, Debouzy JC 2002, Effects of Exposure to Low Level Radio Frequency Fields on Acetylcholine Release in Hippocampus of Freely Moving Rats, Bioelectromagnetics, c'est le nom de la revue. Numéro 23, page 245-255. Et également Lobé Annie, 2006, téléphone portable, comment se protéger, Santé publique édition, Fresnes, page 215-220. Ces résultats d'études scientifiques corroborent l'affirmation d'un collégien devant le stand du livre numérique au Salon du livre de jeunesse de Montreuil en novembre 2012. Ouvrez les guillemets. Quand je lis sur un écran, je mémorise moins que sur le papier. Il y a donc une cause physiologique à cette observation. En tant que parent, vous pouvez tenir compte de ces informations avant de dépenser des sommes faramineuses. Le prix moyen d'une tablette tactile est actuellement de 587 €, soit 121 € de plus qu'en mai 2013. Prix moyen TTC le 7 mai 2018 sur 34 tablettes Van Flash sur Fnac.com. Les prix allaient de 139,99 € à 2269,99 €. Donc vous pouvez tenir compte de ces informations avant de dépenser des sommes faramineuses pour éviter de plonger vos enfants et adolescents dans ce fiasco dont ils ne pourront pas se relever. Ouvrez les guillemets. On cite ici le projet de loi pour la refondation de l'école adopté par l'Assemblée nationale le 19 mars 2013 et soumis au Sénat sous le numéro 441, opus cité, page 42, paragraphe 12 et page 41, paragraphe 8, voire les articles 10 et 28 dans la version adoptée par le Sénat le 24 mai 2013 et transmise à l'Assemblée nationale sous le numéro 151. À l'issue de leur scolarité à l'école primaire, on constate que 25% des élèves ont des acquis fragiles et 15% d'entre eux connaissent des difficultés sévères ou très sévères. Près de 20% des élèves de 15 ans connaissent de grandes difficultés de maîtrise de la langue écrite. Entre 2000 et 2009, cette proportion a augmenté d'environ 30%, passant de 15 à 20%. Donc ça, c'était la note 56 que je vous ai lue précédemment. Compte tenu des effets des ondes sur l'acétylcholine, le simple fait de ne pas exposer vos enfants à domicile leur offre des chances supplémentaires de réussite scolaire. Autre problème, posé par l'introduction des tablettes à l'école, l'électrosensibilité. Dans les Hauts-de-Seine, un enfant de 10 ans était déjà électrosensible en 2013. Un maire a cru bon d'équiper en avant-première les salles de classe de ces tableaux numériques interactifs, TNI, que le gouvernement prévoit d'installer partout et qui sont des écrans tactiles géants, diagonale de 2,13 mètres, destinés à remplacer le tableau du professeur pour interagir avec les tablettes des élèves. Cet enfant avait été placé juste devant le dit TNI, d'autant plus près que son installation avait contraint l'enseignante à déplacer son bureau sur le côté. Les élèves les plus proches sont seulement à 1,50 m de cet écran géant. Même éteint, le TNI continue d'émettre non seulement des micro-ondes, mais également des champs magnétiques de fréquence extrêmement basse, comme tous les ordinateurs fixes et portables et les écrans de télévision TNT. Pour faire cesser ces émissions, il faut les débrancher. Toutefois, à cause de leur batterie, les tablettes et les ordinateurs portables continuent d'émettre, même éteints et débranchés. Les champs magnétiques de fréquence extrêmement basse sont classés depuis 2001 comme potentiellement cancérogènes pour l'homme, catégorie 2B, à l'instar des micro-ondes et des radiofréquences du Wi-Fi depuis 2011. notes 57 et 58. Pour les basses fréquences, note 57, CIRC 2002, Non-Ionizing Radiation, Part 1, Static and Extremely Low Frequency, ELF, Electric and Magnetic Fields, ISBN 92-832-1280, voir aussi La fée électricité, fée aux sorcières, chapitre 3, cancérogène possible pour l'homme selon l'OMS, page 2935, paru chez Santé publique édition. Pour les hyperfréquences, les micro-ondes, la note est la suivante. Communiqué de presse numéro 208 du 31 mai 2011 du CIRC et monographie du CIRC, Centre international de recherche sur le cancer, numéro 102, paru en 2013. De surcroît, tous les écrans émettent également des rayons X, détectables avec un compteur GGR. Rappelons que les rayons X sont classés comme cancérogènes certains, catégorie 1, par le Centre international de recherche sur le cancer, CIRC, qui dépend de l'OMS dans la monographie numéro 75, parue en 2000, dans laquelle il est mentionné que le niveau de risque pour le déclenchement d'un cancer après exposition aux rayons X ne dépend pas que de la dose reçue, mais également de l'âge de l'exposition et de sa durée. Note 59. IARC Monographs on Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans. Volume 75, Lyon 2000, ISBN 92-8332-1275-4. Voilà, on a même les numéros de page. Page 300, 301 et 304. Les élèves équipés de tablettes tactiles seront donc irradiés toute la journée, même lorsque le professeur décidera de ne pas les utiliser. Combien d'enfants deviendront électro-hypersensibles ou cancéreux quand ces écrans seront installés dans près de 300 000 classes d'école élémentaire ? Il faut absolument ne jamais connaître la réponse à cette question et prévenir tout risque en renonçant purement et simplement à déployer ces équipements pathogènes. Le risque est réel, comme en témoigne Christiane, dont la fille a été atteinte d'une méningite à 9 ans. Aujourd'hui âgée de 15 ans, l'adolescente ne peut pas rester devant un écran. Au bout de 3 quarts d'heure, elle a mal à la tête, elle a mal aux yeux et elle voit des flashs. Dès le début, les médecins de l'hôpital Trousseau des enfants malades nous avaient prévenus de débrancher tous les ordinateurs à la maison. Ma fille a perdu des connexions au niveau du cerveau. Cette sensibilité au niveau nerveux déclenche des troubles similaires à l'épilepsie. Elle voulait devenir monteuse de cinéma, mais comme elle ne peut pas travailler sur ordinateur, elle va s'orienter vers la décoration. Dès que j'ai entendu parler de ce projet de distribuer des tablettes tactiles à tous les enfants des écoles, j'ai été scandalisée. Sylvie s'inquiète pour son fils de 7 ans, astigmate. L'ophtalmologiste lui a recommandé de ne pas passer plus de 30 à 40 minutes par jour sur un écran. Comment fera-t-il quand les tablettes seront le support principal des apprentissages à l'école ? Et en effet, comme le soulignent ces témoignages, l'utilisation de tableaux numériques interactifs et de tablettes Wi-Fi deviendra discriminante puisqu'un nombre d'enfants de plus en plus important ne pourra pas les utiliser pour des raisons de santé. Leur scolarité sera donc affectée. À cet égard, l'une des dispositions de la loi de refondation d'école est particulièrement choquante. Elle prévoit d'étendre la distribution des tablettes aux enfants, ouvrez les guillemets, qui ne peuvent être scolarisés dans une école ou dans un établissement scolaire, fermez les guillemets, c'est-à-dire aux enfants porteurs de handicap ou hospitalisés jusque dans les services de cancérologie. Deuxièmement, rien ne garantit que le service public de l'éducation numérique, entre guillemets, prôné par le ministre de l'Éducation nationale, n'aboutira pas dans un avenir plus ou moins proche à la suppression pure et simple des enseignants remplacés par des surveillants ou par des assistants de cours simplement chargés d'administrer aux élèves, sur un mode magistral, les contenus, terme consacré par les opérateurs mobiles, dispensés sur tableau interactif avec leurs indispensables compléments, ordinateurs, vidéoprojecteurs et tablettes tactiles pour les élèves. La manipulation de cet arsenal requiert beaucoup de temps au détriment de la pédagogie elle-même. Un transfert de l'autorité de l'enseignant à l'écran est inévitable. Quiconque aura la maîtrise de la conception des programmes détiendra également la maîtrise des cerveaux en développement. en ayant contourné les résistances d'un corps enseignant bien connu pour son manque de maniabilité et de manipulabilité. Rien ne sera alors plus facile que de privatiser l'enseignement au profit de ceux qui auront les moyens de l'acheter. C'est d'ailleurs ce qui se produit déjà. Des logiciels réalisés par des sociétés privées proposent des cours tout près. La géographie enseignée par Google Maps, ça vous tente ? Donc j'ai trouvé cette information sur www.tableauinteractif.fr/logiciel-tni-logiciel-enseignement/géographie donc comme Charlie Chaplin dans Le Dictateur, faites tourner le globe terrestre du bout des doigts. Vu le temps nécessaire aux professeurs pour créer leur propre support de cours, ils y renonceront bien vite. Note 61, 57 pages de tutoriel à ingurgiter pour être capable de réaliser un QCM avec un logiciel canadien. framasoft.net/img-pdf et tableau interactif www.tableau-interactif.fr/utiliser-tbi/logiciel-tbi/création-exercice. L'enseignement ne sera donc plus la transmission de savoir d'un cerveau à un autre, mais la diffusion automatisée de contenu uniforme. Quelle régression ! Il ne s'agira plus de formation, mais de formatage. La promotion de l'éducation numérique a peut-être un autre objectif caché : réduire la dépense publique. Pensez donc, 6,8% du PIB sont alloués à la dépense intérieure d'éducation. 147 milliards d'euros en 2015, dont 84,8 sont pris en charge par l'État, 34,7 par les collectivités, 12 milliards par les ménages, 11,5 milliards par les entreprises et 4,2 milliards par les autres administrations. 51,2% de la dépense concerne les salaires des 341 700 enseignants. Un excellent retour sur investissement peut donc être envisagé en supprimant les postes d'enseignants. Et un jour, plus besoin de bâtiments publics pour les écoles. Les enfants resteront à domicile derrière leur console, avec un tutorat assuré à distance via Internet. Lors d'un entretien, le 12 juin 2013, le responsable commercial du dictionnaire Robert résumait franchement les inconvénients qu'il avait personnellement observés en accompagnant la distribution de tablettes Wi-Fi à tous les écoliers du département de la Corrèze à la rentrée 2010, ainsi que la distribution pilote de tablettes iPad aux élèves de CE2 à Angers. Ouvrez les guillemets. Le bilan est très mitigé. Lorsque l'appel d'offres a été lancé, personne n'a pensé à la maintenance ni à la sécurisation des tablettes pour empêcher les téléchargements de jeux. Il a fallu ensuite créer une cellule spéciale pour un coût élevé, non prévu au départ. Quand on donne une tablette tactile à un élève de 6e, il est illusoire de penser qu'il va la garder intacte pendant 4 ans. Il y a du racket, des tablettes qui disparaissent ou qui sont cassées. Trois petits points. Note 62, l'éducation nationale en chiffres, 2017. Et le responsable commercial du dictionnaire Robert dénumérait d'autres problèmes non résolus. Le choix des manuels pédagogiques appartient aux enseignants. Mais on ne peut pas prééquiper les tablettes avec tous les manuels existants. Deux appels d'offres ont été lancés par le gouvernement pour équiper les élèves de tablettes en proposant des subventions pour les fabricants et les éditeurs de ressources afin de créer le matériel et les contenus. Mais ce sont les maires, pour les écoles primaires, et les présidents de conseils départementaux, pour les collèges, qui devront décider et assumer les dépenses d'achat du matériel. Actuellement, ce sont les parents qui achètent les manuels scolaires papier édités par Nathan, Atier, Bordas, etc. Les parents devront-ils acheter demain en plus les ressources numériques à télécharger sur les tablettes ? Ces ressources seront-elles livrées gratuitement avec les tablettes ? Et dans ce cas, qui les paiera ? Autant de questions qui n'ont pas trouvé réponse à ce jour. Autre point, ouvrez les guillemets, toujours en citant le directeur commercial du Robert. Dans un département, 60 000 PC ont été distribués aux collégiens pour qu'ils l'installent à domicile. À un an des élections, le but était de faire un cadeau aux familles. Il s'agissait d'une opération de communication sans aucun projet pédagogique associé. On a équipé les élèves sans équiper les professeurs. Et d'ailleurs, là où les classes sont déjà équipées de tableaux numériques interactifs, les enseignants n'ont pas été préalablement informés, contrairement à ce qui s'est passé en Angleterre, où un énorme budget a été consacré pour équiper en TNI depuis 5 ans toutes les classes du primaire jusqu'à l'université. J'ai assisté à une expérimentation dans laquelle un enseignant en difficulté avec son TNI a perdu la face devant sa classe de 4e. Un élève s'est levé et lui a dit « Je vais te montrer comment ça fonctionne ». Les jeunes qui baignent dans l'environnement informatique à domicile sont plus à l'aise que leurs professeurs avec les outils informatiques. Cela a pour conséquence la remise en cause des capacités des enseignants. Tout ça pour ça. Depuis 10 ans, il recommande à ses interlocuteurs de, ouvrez les guillemets, faire un projet avec les enseignants pour savoir de quelles ressources ils ont besoin avant de lancer les appels d'offres pour équiper les élèves en matériel. Selon lui, le cartable numérique, lancé dans les Landes en 2001, a été une expérience positive parce que l'on a équipé d'abord les enseignants avant de donner aux élèves un ordinateur portable sur lequel leur manuel scolaire était téléchargé. Alors j'ai mis entre crochets. Le rapport, publié en 2012 pour faire le bilan de cette expérimentation, donne une version des faits légèrement différente, soulignant page 49 que, ouvrez les guillemets, les critères de choix des manuels installés ne sont pas connus des professeurs. Note 52. Déjà cité. Et dans ce rapport, on ne trouve pas un mot de l'impact de l'expérimentation sur les résultats scolaires ni sur la trajectoire professionnelle des élèves équipés les premiers en 4e et 3e en 2001. Ce bilan est donc notoirement incomplet. A-t-on besoin d'une tablette tactile pour enseigner en primaire la lecture et l'écriture, lesquelles s'apprennent de pair ? On n'apprendra jamais à écrire avec une tablette tactile, c'est évident, conclut-il. Marie, enseignante de langue dans un lycée, utilise déjà des ressources numériques. Elle porte une appréciation positive sur le jeu qu'elle a vu sur tablette pour apprendre à compter dès la maternelle, mettant en œuvre des cartes à jouer. Seulement voilà, les enfants apprennent déjà à compter dès la maternelle avec des jeux qu'ils manipulent eux-mêmes avec leur maîtresse. La tablette tactile n'ajoute rien, au contraire, son utilisation réduit les jeux de 3 dimensions à 2 dimensions. Isabelle intervient du CPE au CM2 en RAZ, réseau d'aide spécialisé aux élèves en difficulté, dans une école pilote du Val-de-Marne qui a reçu 15 iPads. Elle les utilise pour faire des petites choses dessus, dit-elle entre guillemets, mais cela n'a absolument rien d'indispensable. D'ailleurs, elle ne s'en sert, ouvrez les guillemets, quasiment plus. Ce que l'on fait avec a un intérêt plus que relatif. Qu'un élève se lève pour montrer une image au tableau, qu'il la pointe sur l'écran de sa tablette tactile, c'est pareil. Sur le plan cognitif, cela n'apporte rien. Les gamins jouent dessus ce qu'ils font sur Internet, ils le faisaient déjà sur les ordinateurs qui sont dans l'école. Pour elle, l'ordinateur à l'école, actuellement, sert, ouvrez les guillemets, à fliquer les enseignants. Ils ont l'obligation d'y mettre le cahier de texte, ce qu'ils font en cours, le bilan des cours pour leur hiérarchie et pour les parents. Même les notes des élèves sont mises en ligne en temps réel, ce qui revient à fliquer aussi les élèves. Elle déplore la suppression par le gouvernement Sarkozy de 70% des postes de RAZ créés sous le gouvernement Jospin et le fait que la formation spécifique des enseignants RAZ ait été réduite de 2 ans à 1 an. Ouvrez les guillemets. La spécificité des RAZ ne relève pas de la formation initiale des enseignants. On veut remplacer les RAZ par une aide individualisée dispensée par les enseignants eux-mêmes. C'est méconnaître la nature des difficultés qu'ont les élèves. Par exemple, l'absence de capacité d'évocation, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas fabriquer des images. Il faut passer par le jeu, utiliser des cartes d'animaux. Par exemple, je travaille avec une élève de 6-7 ans qui, quand elle voit une carte présentant le contour d'une grenouille en noir et blanc, répond « blanc » au lieu de répondre « vert » à la question « quelle est la couleur d'une grenouille ?» Normalement, cette faculté d'évocation est acquise à 4 ans. D'autres élèves en CP manquent de repères spatiaux. Par exemple, ils ne savent pas déplacer les petits chevaux d'une seule case à la fois sur un jeu de dames. Ce dont ils ont besoin, c'est d'acquérir ces apprentissages qui auraient dû être faits à la maison. Le jeu en 3 dimensions est donc indispensable à l'apprentissage, tout comme l'écriture à la main avec un stylo de la première à la dernière page d'un cahier. L'enfant qui appréhende le monde en 2 dimensions via la télévision ou sur une tablette tactile devient un handicapé sur le plan spatio-temporel. Comment ne pas s'interroger comme Sophie sur l'effet cognitif de l'omniprésence des écrans? Le fils de son frère, chez qui la télévision est toujours allumée, est déjà en RAZ dès le CP alors que ses deux parents ont un niveau d'études Bac plus 5. Pour l'écriture, la lecture, le calcul, il n'imprime pas. Isabelle renchérit. Dans ma ZEP, zone d'éducation prioritaire, les élèves passent au minimum 1h30 chaque jour devant des écrans. Pendant les vacances, c'est encore plus. Un élève de 10 ans a tellement joué sur écran qu'il a eu une crise d'épilepsie à la fin des vacances. Comme ils passent leur temps à zapper, ils ne peuvent plus rester centrés. Ils papillonnent en permanence. Le même constat vaut pour les recherches sur Internet demandées aux élèves pour les devoirs, un alibi invoqué pour justifier l'utilité d'un ordinateur à domicile. Voici ce qu'en dit Fanny Capel, jeune professeure de lettres qui a réfléchi au sein du collectif Sauver les lettres sur les dysfonctionnements inhérents au système scolaire et publié en 2004 à 29 ans le livre Qui a eu cette idée folle un jour de casser l'école. Ouvrez les guillemets. La recherche sur Internet n'apporte souvent rien aux élèves. Internet n'offre aucune garantie de scientificité des données. Un élève peut tomber sur un site anti-abortiste lorsqu'il cherche des chiffres sur l'avortement, sur des sites de propagande révisionniste, ainsi que sur les sites les plus souvent visités, à savoir les sites pornographiques. Saura-t-il, à coup sûr, trier le bon grain de l'ivraie, les informations scientifiques de la propagande des gourous? Par ailleurs, les documents qu'il tire d'Internet ne sont ni didactiques ni forcément adaptés à son niveau, comme le sont ceux que les professeurs utilisent en cours ou ceux qu'on peut trouver en bibliothèque. L'élève ne peut tirer profit d'Internet que si, grâce à des connaissances disciplinaires solides, il possède une distance critique par rapport à des sources parfois douteuses et la capacité de comprendre et de juger les documents qu'il trouve. Il est absurde, voire dangereux, d'introduire massivement des ordinateurs à l'école primaire, comme c'est la tendance aujourd'hui. Quand elle n'est pas inutile, l'informatique s'avère dangereuse auprès de jeunes enfants dont le développement psychomoteur n'est pas achevé. Les enfants ne doivent pas apprendre à lire ou à écrire sur un écran d'ordinateur. On sait depuis les théories sensualistes d'un Condillac que l'apprentissage se fait plus facilement si l'on active plusieurs sens en même temps. Or, en travaillant sur un ordinateur, les enfants n'acquièrent pas l'habitude de manipuler les pages d'un livre ou de tenir correctement un stylo, un exercice de motricité fine que ne permet pas un clavier. Ils perdent le lien fondamental entre la lecture ou l'écriture et les sensations variées, tactiles, auditives, visuelles, qu'elles devraient leur procurer. Note 63. Capel, Fanny 2004, qui a eu cette idée folle un jour de casser l'école, Paris Ramsay, ISBN 2-84-114-688-10, en chiffre romain, page 141-142. Là, je vous fais entendre le bruit du livre. La conséquence du manque d'attention et de concentration des jeunes générations se fait d'ores et déjà sentir sur le marché du travail. Blanche, aide-soignante à l'hôpital, constate que depuis 5 ans, les recrues nouvellement formées sont incapables à 20 ans d'apprendre le métier sur le terrain. Ouvrez les guillemets. On a beau leur expliquer, elles refont toujours les mêmes erreurs sans que cela semble les affecter outre mesure. Par exemple, une part importante de notre métier consiste à assurer la liaison entre les malades, les infirmières et les médecins pour signaler les symptômes qui apparaissent. Elles oublient de le faire sans comprendre à quel point cette absence de transmission peut affecter le malade. Fermez les guillemets. La génération portable fera-t-elle basculer notre société dans un océan d'incompétence? On pourrait bien sûr objecter que l'introduction du numérique pédagogique, entre guillemets, dès l'école primaire, incitera les élèves à passer plus de temps utile, entre guillemets, sur les outils numériques. Douce utopie. Le dictionnaire Robert, créé en 1951, est constamment amélioré en version numérique depuis 1989, soit 29 ans. Malgré le caractère dynamique de sa conception, qui est remarquable avec 370 000 liens entre les différentes entrées, d'abondantes cartes en couleurs et photographies, on n'a pas encore rencontré d'élèves addicts à sa consultation sur écran. À tout âge, lire un dictionnaire est pourtant une excellente façon de se cultiver. Sous-chapitre, juteux contrat mais raquette des écoliers prévisible. Dans la loi sur la refondation de l'école, la main des industriels, derrière l'introduction des amendements relatifs au service public du numérique éducatif, entre guillemets, par le rapporteur du texte, Yves Durand, député du Nord, apparaît clairement dans le paragraphe numéro 190 de l'annexe du projet de loi adopté le 19 mars 2013 par l'Assemblée nationale. Ouvrez les guillemets. Enfin, pour faciliter l'action des collectivités territoriales et lutter contre les inégalités territoriales, la constitution d'une offre d'équipements matériels et logiciels attractives et des procédures administratives simplifiées pour leur acquisition et l'achat de maintenance seront mises en place. Note 64. Donc c'était page 65 du projet de loi numéro 653 transmis au Sénat sous le numéro 441 le 20 mars 2013. Au Sénat, le rapporteur est Madame Françoise Cartron, sénatrice de Gironde. Le projet de loi y a été adopté dans la nuit du 24 au 25 mai 2013 avec 176 voix pour et 171 voix contre. L'on voit déjà se profiler à l'horizon de juteux contrats pour l'équipement et la maintenance d'un parc informatique de près de 7 millions de tablettes. Que ceux qui croient que ce programme ne verra jamais le jour faute de moyens se détrompent. Qu'ils se souviennent comment les opérateurs de téléphonie mobile français nous ont fourgué leurs abonnements avec des téléphones portables à 1 euro. Sans nul doute, il se trouvera des producteurs de contenu, comme se dénomment eux-mêmes les éditeurs numériques, pour payer les tablettes à la place des communes et des parents, qui n'auront qu'à verser une somme symbolique pour la première. Et quand le pli sera pris et que plus personne ne pourra s'en passer, les prix augmenteront, comme cela a été le cas avec les téléphones portables, puis les smartphones. L'opération sera également juteuse pour les racketteurs de tout poil, dont la convoitise ne manquera pas d'être attisée par ces gadgets. Et l'on ose imaginer le racket et les violences associées qui ne manqueront pas de sévir, y compris dans les écoles primaires, quelque peu épargnées jusqu'à présent, quand les écoliers seront équipés. Pour les fournisseurs, ce sera tout bénéfice, puisque l'école sera tenue de remplacer immédiatement les équipements dérobés ou endommagés, faute de quoi, lorsque l'usage des tablettes sera devenu incontournable, l'élève racketté ne pourra plus suivre sa scolarité. Est-ce pour cela que les fondateurs de l'école obligatoire en 1881-82 avaient décidé que tous les écoliers porteraient une blouse? Note 65, www.ac-grenoble.fr/école-matérielle.cerezin-de-la-tour/istecole-2.htm. Point de racket alors à la sortie des écoles, il n'avait rien à dérober. Faut-il s'étonner si le racket est apparu dans des établissements scolaires et à leur périphérie quand, 120 ans plus tard, des écoliers ou des collégiens ont eu des baskets à 200 euros, puis de coûteux gadgets électroniques? Si le développement du racket conduit à supprimer les devoirs à la maison pour que les écoliers puissent laisser leur tablette à l'école, le niveau scolaire chutera encore plus. Les enfants aidés à la maison réussissent mieux que ceux qui ne le sont pas. C'est un fait que personne n'ignore. Dès lors, le nivellement par le bas ne peut que s'avérer catastrophique. Pourquoi ? Parce qu'il est indispensable de s'approprier les savoirs acquis par des exercices personnels. L'utilité du travail personnel à domicile pendant les premières classes de primaire est de permettre la mémorisation des savoirs explorés pendant la journée grâce à l'aide individualisée d'un parent ou d'un autre adulte dédié. Cela permet notamment la vocalisation ou énonciation à haute voix des apprentissages qui est nécessaire à la fois pour la mémorisation et pour la compréhension. L'auto-répétition ou boucle vocale est une composante essentielle de la plupart des activités cognitives. Attention, calcul. C'est pourquoi les conjugaisons, tables de multiplication et autres récitations sont fort utiles pour la construction lexicale ainsi que pour la mémorisation. Note 66, Cerveau et Psycho numéro 41, c'est un magazine, octobre-novembre 2010, page 44, Apprendre par cœur ou comprendre, par Alain Liery, professeur émérite de psychologie cognitive de l'Université de Rennes 2, ancien directeur du laboratoire de psychologie expérimentale, citant les travaux du chercheur Alan Badley. Or, ce mode d'apprentissage est impossible à mettre en œuvre dans le cadre d'une étude surveillée où les enfants doivent rester silencieux pour ne pas déranger leurs camarades. S'amuser en apprenant, ce n'est pas nouveau. Pour mémoriser les tables d'addition et de multiplication, il n'existe pas de moyen plus efficace que de les chanter en rythme. 2 fois 1, 2, 2 fois 2, 4, 2 fois 3, 6, etc. Regardez nos vidéos en ligne sur le site santépublicédition.fr, page table avec un S, addition, multiplication, chanter avec des tirets du 6 entre les mots et chanter ES.html. Parce qu'il ne s'occupe que de son propre enfant, le parent qui l'aide à faire ses devoirs à domicile sait exactement où il en est dans ses apprentissages, ce qui lui permet de l'accompagner pas à pas pour le faire progresser, en s'assurant de ne laisser aucune lacune. Il s'assure à la fois que l'élève a bien compris et bien appris sa leçon et lui donne des pistes puisées dans sa propre expérience pour développer ses propres stratégies d'apprentissage. Ensuite, à partir de 9 ou 10 ans, la plupart des élèves peuvent se débrouiller seuls, ce qui leur permet d'acquérir autonomie et autodiscipline. De plus, il ne faut pas se voiler la face. Pour la majorité des enfants, la suppression des devoirs à la maison augmenterait automatiquement le temps passé devant les jeux vidéo ou la télévision quand les parents n'ont pas les moyens, intellectuels ou financiers, de les inscrire à des activités extrascolaires créatives. Sport, musique, danse, dessin, théâtre, ou pas le temps de les y conduire. Rentrer après l'école, devoir fait, ne sera qu'un leurre de plus qui fera davantage chuter le niveau scolaire et il est important de garder ce moment privilégié d'éducation que constitue l'aide aux devoirs à la maison. Je me souviens de ce cadre de l'UNESCO racontant publiquement lors d'une conférence, avec fierté et émotion, comment il avait lui-même enseigné à lire et à écrire le français à sa mère, d'origine étrangère, tous les soirs en revenant de l'école. Devenu un mathématicien de haut vol, il attribuait sa réussite au fait qu'il était très attentif en classe et s'assurait d'avoir tout bien compris pour être capable de l'expliquer à sa mère. Cette jolie histoire vraie peut inspirer de nombreuses familles dans la même situation. Dès le début du CP, les enseignants pourraient rencontrer les mères au foyer ne sachant ni lire ni écrire le français et leur suggérer d'apprendre avec leurs enfants. En portant une attention particulière à leurs élèves, qui deviennent « professeurs » entre guillemets le soir, les enseignants pourraient, avec l'aide d'associations d'aide aux devoirs, transformer des établissements difficiles en lieux d'excellence dès le cours préparatoire. En acceptant de livrer les cerveaux de nos enfants aux tablettes tactiles, la France s'apprête à faire sauter des verrous que personne ne pourra plus reposer. Avec sa tablette individuelle, chaque élève sera électroniquement fliqué, avant même de savoir lire. Les big data en rêvent, nos responsables politiques le réalisent. Pour l'instant, personne ne semble vouloir les arrêter. Et que se passera-t-il quand la génération des 40-60 ans, babysitée par la télévision, passera le flambeau à la génération des 20-40 ans, babysitée par les jeux vidéo ? Quelles décisions prendront les responsables politiques issus de cette geek génération qui n'a déjà plus aucune distance critique face à ces écrans en tout genre, qu'elle manipule jour et nuit depuis l'adolescence ? Arrêtons de nous mentir à nous-mêmes, de nous mentir les uns aux autres et de mentir à nos enfants. Tout le monde sait que le téléphone portable et les appareils sans fil sont dangereux. Si ces produits sont dangereux, il ne faut pas les utiliser et encore moins les distribuer aux enfants ou les rendre obligatoires à l'école.